Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance, comme on dit.
Hello les amis et très belle année, parce qu'il est encore temps, on ne perd pas les bonnes habitudes. Les partenaires de ce podcast sont à nouveau à côté de moi, malgré un emploi du temps bien garni, Mathieu Billot de Foot Normand et Luc Gallet du Courrier Cauchois. Bonjour à tous les deux.
Bonjour tout le monde.
Et salut tout le monde, bonne année à tous.
Et pour ce premier numéro de 2026, deux joueurs s'installent à la table du débrief, les deux artisans du but marqué dimanche à Rennes. J'ai nommé Rasoul Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Et merci de revenir à ce micro, vous étiez là déjà il y a quelques semaines. Et puis Félix Mambimi, bienvenue à vous.
Merci. Bonjour à tous.
Vous étiez buteur hein, sur la feuille de match dimanche, c'est plutôt un beau cadeau pour votre quart de siècle puisque vous fêtiez vos 25 ans lors de ce match. On va revenir évidemment sur ce début d'année encourageant pour le HAC. 14e de Ligue 1, des Ciel et Marine en partie déjà renforcés durant le mercato. Et puis on évoquera aussi l'actu foot de la semaine, cette victoire sénégalaise à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est parti pour le débrief 100% HAC, saison 2, épisode 9.
Mes coéquipiers qui s'arrachent et qui se battent sur tous les ballons, je pense que c'est l'image que je retiendrai de cette première. Et ouais, c'est une vraie bataille, ça nous ressemble totalement quoi. C'est un super point qu'on arrache avec un collectif qui a pas lâché jusqu'au bout. Mais c'est à l'image de ce qu'on fait un peu depuis le début de saison. Moi je bosse avec les mecs, je suis arrivé cet été et de ce que je vois à l'entraînement, franchement je suis pas du tout surpris de ce qui s'est passé ce soir.
La satisfaction du gardien à vrai Lionel Mpassi dimanche, c'était en zone mixte après ce match nul un partout entre Rennes et Le Havre. C'était sa première en Ligue 1 en l'absence évidemment de Moridio qui était parti au Maroc pour la CAN. Alors on va revenir sur cette 18e journée et sur ce très bon point pris. D'abord un petit point infirmerie, comment ça va Rasoul après cette rencontre? Vous aviez une petite douleur à l'épaule je crois en fin de match, est-ce que ça va mieux?
Ouais ça va mieux, plus les jours passent et mieux c'est, et maintenant j'essaye de faire mes séances avec une petite douleur, mais je pense que ça sera bon pour samedi.
Séance de muscu juste avant l'enregistrement de ce
ouais,
podcast.
Un donc peu adapté, mais ça va.
Bon Mathieu, je me retourne vers vous. Il y a Luc aussi. Est-ce qu'au niveau infirmerie, on en sait un peu plus ou pas?
Ouais, il y avait quelques visiblement le match à Rennes a laissé 2-3 traces, notamment Gauthier Loris hein, qui est sorti prématurément et qui souffre des ischio-jambiers, qui devrait pas être là contre Monaco samedi. Et après il y a aussi quelques incertains comme Rasoul, mais bon, peut-être que d'ici samedi ça ira mieux. Il y a eu pas mal de joueurs. Bon, il y a Issa Osumare qui est aussi sorti lui le premier au bout d'une vingtaine de minutes de jeu. Haruna Sangante, Yannis Ouaoui, il y avait déjà aussi quelques blessés, on va dire de plus longue date comme Abdoulaye Touré. Donc forcément ça a laissé quelques séquelles, mais bon, d'ici samedi peut-être que le contingent des joueurs incertains diminuera à l'image de Rasoul du coup.
On en saura plus évidemment en conférence de presse d'avant-match. J'ai vu évoquer en préambule pendant le générique ce but inscrit dimanche, une frappe de Rasoul déviée par Félix. C'est vraiment du collectif à 100%. Au final, c'est vous qui prenez la stat quand même, Félix. Content.
Rasoul aussi.
Non mais voilà, comment vous avez vécu ce but, ce moment, même si c'était pas au stade Océane, mais bon, c'est toujours sympa.
Non, enfin, sur l'action, on part en contre-attaque et je vois que je suis sur la trajectoire de la balle, mais c'est trop tard pour bouger, mais bon. Rasoul, avec son génie, il fait une bonne frappe qui me touche parfaitement et qui rentre. Donc, non, en tout cas, ce qu'on retient finalement, c'est qu'il y a eu but et que c'était un but important pour nous dans ce match à l'extérieur.
Ouais, il fallait être au bon endroit, en fait.
Ouais, bah.
Au bon endroit, au bon moment, et vous avez pu ensuite tenir, même s'il y a eu une égalisation rennaise. Mais comment vous avez vécu voilà, cette fin de match aussi, qui était c'est 8 minutes de temps additionnel quand, voilà,
c'est vrai que c'était une vraie bataille du début à la fin. Et puis plus le match avançait, plus les minutes étaient longues. Mais je pense que comme Lionel, il l'a dit en zone mixte après le match, c'est qu'on s'est battu jusqu'à la fin. Après, ça peut arriver qu'on encaisse parce qu'ils ont beaucoup poussé, mais ils auraient pu aussi marquer d'autres sur d'autres actions où la Lionel a fait plus que le job, je dirais.
Bon, Rasoul, vous allez quand même pas laisser passer ce but comme ça, quand même. Il est quand même un petit peu pour vous, quand même.
Ouais, j'ai essayé.
Il y a discussion, là, j'imagine, dans les vestiaires ou dans le bus, là.
J'ai essayé, mais c'était mort. Et en plus, j'avais oublié que c'était son anniversaire, donc je vais laisser.
Ah, donc un petit cadeau, du coup.
Exactement.
Voilà, pour ça, on a dit, Célia, pour vos 25 ans, c'est ça?
Exactement.
Bon, c'est un beau cadeau, hein, je pense, quand même.
Ouais.
Comment vous interprétez ce point pris et ce début, plus globalement ce début de 2026 avec la victoire face à Angers, le nul face à Rennes, c'est plutôt bien parti, Rassoul.
Ouais, c'est plutôt bien parti. On a quand même pris 4 points sur 6 possibles, donc on va essayer de rester sur cette dynamique. Et je pense que, comme Lionel et Félix m'ont dit, c'est quelque chose qui ne nous surprend pas parce qu'on se donne vraiment à fond pendant la semaine. Mais voilà, on va essayer de continuer à prendre les bons.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite pointe de frustration parce que vous étiez quand même devant encore à 86e, de se dire bon voilà, on aurait pu faire un super coup sur la pelouse en plus d'une équipe qui était plutôt particulièrement en forme qui est le Stade Rennais. Est-ce qu'on se dit pas bon bah mince, c'est quand même, on n'est pas passé loin d'un énorme coup.
Ouais, forcément, du point de vue de la physionomie du match, on peut se dire qu'on pouvait prendre les 3 points. Après, on sait de par les années précédentes que les matchs comme ça, on avait tendance à les perdre. Donc, un point à l'extérieur, comme vous l'avez dit, contre une équipe de Rennes plutôt sur une bonne dynamique. On va prendre.
Est-ce qu'elle a fait du bien quand même cette coupure là à Noël? Parce que c'est vrai que vous donnez énormément, mais avant la trêve de Noël, c'était un peu plus compliqué en termes de résultats. Je crois qu'il y avait une série de 6 journées sans victoire, 3 nuls et 3 défaites. Là, on reprend 2026. 4 points sur 6, comme vous l'avez dit, à Soul. Félix, on a l'impression quand même que cette trêve a permis de trouver peut-être un second souffle chez l'ensemble de l'équipe.
Mais je pense que mentalement, surtout, c'est que quand on est dans cette bataille pour le maintien, c'est pas toujours simple mentalement. De chaque match, on doit être à plus de 100% pour pouvoir faire des bons matchs. Donc je pense que cette coupure a fait du bien, surtout mentalement, à tout le monde. Et après, justement, on est revenu avec beaucoup d'envie et de continuer notre mission, quoi.
L'enjeu, c'est d'être dans le bon rythme. Je crois que Didier Ligard disait, on est sur notre tableau de marche au niveau des points. Vous regardez le compteur aussi, j'imagine, à chaque fois, avant, après, l'un et l'autre.
Bah ouais, on regarde à chaque après-match, vu que quand on a un objectif comme le maintien, chaque point est important. Donc on regarde ce que font les autres en même temps, après les matchs, bien sûr. Et voilà, donc après, la meilleure des choses, c'est se concentrer sur nous-mêmes et comme je l'ai dit, d'engranger le plus de points possible.
C'est comme les journalistes, comme les supporters à ce niveau-là. Tout le monde a égalité, tout le monde regarde les points.
Exactement.
Le nombre de points d'avance qu'on a sur le barragiste, la zone rouge.
Exactement.
C'est quoi le calendrier? Là-dessus, il n'y a pas de jaloux, c'est ça qui est bien.
Exactement.
Tout le monde observe que Lorient a gagné face à Monaco, notamment.
Ouais. Mmh. On observe surtout que tout le monde remarque que Le Havre a pris un point sur les 3, voire les 4 derniers ce week-end.
Ouais.
C'est tout ça. Et on laisse Lorient faire sa vie tranquillement de son côté. Je pense que si le classement en restait là, messieurs, vous seriez contents. Au soir, alors, je connais pas le soir de la dernière journée, mais
bien
mi-mai.
Sûr, ouais.
on prend.
Ça enlève peut-être un petit peu de pression d'avoir justement un petit matelas, même si c'est pas un énorme matelas, mais en tout cas d'avoir ce petit matelas sur par exemple la zone rouge. Est-ce que justement ça permet d'aborder peut-être un peu plus sereinement ou en tout cas d'une meilleure façon les prochaines échéances?
Moi personnellement, pas forcément, parce que la mission elle se finit à la 36e journée. Il y a 36 journées.
34.
Maintenant, pardon.
Vous pouvez discuter de journée. Vous allez vous arranger avec Mathieu Bonnet et vos dirigeants pour voir comment ça se passe.
Il y a 34 à la fin des 34 journées. Je pense qu'avant ça sert à rien de se mettre d'autres choses dans la tête. On prend match après match et si on fait notre boulot comme il faut, on sera satisfait et content à la fin.
On le disait, le HAC semble avoir trouvé un second souffle en ce début d'année. Vous en êtes deux des principaux protagonistes. Rassoul, bon, chambre un petit peu sur cette histoire de but. Toujours est-il que vous êtes impliqué sur les 3 buts du Havre en 2026, car vous avez signé 2 passes décisives contre Angers pour 2 petits jeunes. Même si vous n'êtes pas bien vieux.
Ouais.
Mais le foot, c'est cruel, c'est que dès qu'on a dépassé 20 ans, on est déjà dans la case des cadres. Hein. J'ai l'impression que Félix Hachès, du haut de ses 25 ans.
C'est dur.
Alors, imaginez dans la vie de tous les jours quand on a 40. je vous laisse imaginer.
Ça sent le vécu, ça.
C'est ça, exactement. Rassoul, bon, on le dit, quand vous étiez venu aussi il y a quelques semaines, on en parlait. On a l'impression que cette saison, c'est vraiment pour vous la saison de la confirmation que vous êtes un joueur pleinement abouti de Ligue 1. Je voyais d'ailleurs des commentaires de suiveurs du FC Sochaux ce week-end qui avaient regardé le match contre Rennes et qui disaient c'est fou de voir à quel point Rassoul a progressé, devenu un joueur accompli de Ligue 1. Et là on a vraiment l'impression que c'est ça, en tout cas sur cette dernière semaine. Est-ce que vous le ressentez comme ça aussi?
Ouais, je le ressens. Après, même si j'ai eu des moments compliqués, on est toujours un peu conscient de ses capacités. Et comme je le dis souvent, le foot, c'est vraiment que en grande partie la confiance. Et quand on rentre sur le terrain et qu'on est souvent décisif, on rentre dans un autre état d'esprit. Et je pense que c'est ça qui m'aide cette année au niveau de mes performances.
Vous êtes animé par la confiance, du coup?
Ouais, vraiment, c'est ça. Je suis animé par la confiance. Mais après, j'ai des gens autour de moi qui m'aident beaucoup. J'ai des coéquipiers avec qui je suis complémentaire. Un staff qui travaille bien aussi. Donc, c'est un environnement. C'est un peu de tout, quoi.
Est-ce que, par exemple, cette frappe que vous avez tentée contre Rennes, peut-être pas la saison dernière, mais il y a 2 ans, vous ne l'auriez pas tentée, du coup?
Exactement, c'est ça. C'est une fois qu'on est décisif, on tente des choses que peut-être auparavant, on ne pensait même pas pouvoir imaginer. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder. Et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. En tout cas, je vais tout faire pour. Et comme ça aide l'équipe, c'est bénéfique pour tout le monde.
Il y a la confiance, il y a aussi le discours du coach qui est toujours à dire prenez les occasions quand elles sont là. J'imagine que ça joue aussi.
Ouais, il nous le répète assez souvent. Il n'aime pas quand on arrive dans le dernier tiers et qu'on hésite. Ou il nous répète assez souvent que lui, il a confiance en nous. Donc nous, on doit avoir confiance en nous-mêmes. Et je pense qu'à chaque fois qu'on applique ses conseils... En tout cas, à la fin du match, on n'a pas de regrets, en tout cas.
Félix, aussi, ça se passe plutôt bien, ce début d'année pour vous, deux fois dans le 11 de départ. Je crois que vous avez trois titularisations sur l'année 2025 avec le HAC. Comment vous vivez un petit peu ce début d'année 2026 qui est plutôt positif pour vous?
Bien, je pense que je suis sur un chemin où je monte en puissance. Après, c'est normal parce que je viens aussi d'une ligue inférieure, entre guillemets. Donc il y a tout cette
acclimatation
à avoir.
Mais on dit pas comme ça en Suisse, c'est pour ça.
Pardon. non, et puis je pense que je suis content, je suis sur les temps de passage à mon avis, et ouais, c'est à moi de continuer comme ça et travailler dur.
Ouais, vous avez senti le step, vous venez du championnat suisse, qui est un très bon championnat, mais peut-être un petit peu en dessous la Ligue 1. Quand vous êtes arrivé, vos premières semaines, vos premiers mois, vous avez senti que vous avez passé un step en termes de niveau?
Oui, c'est clair. Je pense pas que c'est une surprise pour quelqu'un là autour de la table. Mais c'est surtout l'enchaînement. C'est que chaque week-end, en fait, le match, il est compliqué. Alors qu'en Suisse, il peut avoir des matchs compliqués, mais tu sais que le prochain match compliqué va arriver dans 2-3 semaines. Donc, t'as le temps de voir venir les choses. Alors que là, c'est chaque week-end à 100%. Et c'est ça où j'ai dû beaucoup travailler.
Ah, donc c'est physiquement quand même qu'il faut encaisser les charges de travail
pour
et les
moi
impacts.
Personnellement.
D'accord.
Ouais, et peut-être plus sur l'intensité aussi dans les matchs aussi, j'imagine que ça change un petit peu aussi, non?
Ouais, dans l'intensité, ouais, mais après j'ai pu évoluer dans les différentes compétitions européennes, donc j'ai pu un peu retrouver cette intensité-là, mais c'est plus chaque week-end qui fait que la répétition des efforts, c'est dur et il faut savoir... encaisser tout ça.
Est-ce que
un championnat qui est plus homogène finalement que...
Exactement,
voilà,
ouais, voilà.
Est-ce que le système, là, c'est vrai que là, depuis 2 journées, alors le coach change beaucoup de système, d'équipe et tout, mais là, depuis 2 journées, en tout cas de base, c'était un 4-4 de losange, donc a un peu changé à Rennes, compte tenu, on a dit, des sorties prématurées d'Issa et de Gauthier. Mais vous, de base, vous êtes positionné un petit peu en soutien des deux attaquants. Rassoul, vous trouvez un rôle un petit peu de milieu relayeur box-to-box. Est-ce que c'est aussi un système qui met bien en avant vos qualités ou dans lesquelles, en tout cas, vous vous épanouissez bien?
Moi, je pense oui. Et puis surtout que avec Rassoul, je trouve qu'on s'entend bien sur le terrain. Donc, on ne se pose pas vraiment de questions si à un moment, on se retrouve en soutien des attaquants et moi un peu plus bas. Et je pense que ouais, c'est juste comprendre sur le terrain les uns les autres et c'est beaucoup plus simple.
Rassoul aussi,
Ouais, je pense que si le coach... Il arrive à changer de système autant de fois, c'est qu'il sait que on a des automatismes et qu'on, comme il l'a dit, Félix, il voit qu'à l'entraînement, on arrive à combiner ou à vite échanger pour être complémentaire. Et je pense qu'on le voit sur le terrain, surtout quand on a le ballon offensivement. Et voilà, je pense que maintenant, ça paye.
Un mot de ce match qui arrive face à Monaco, match qu'on dit de gala, hein, je crois que c'est le terme que le club emploie. En tout cas, ce sera un match qu'il faudra jouer le plus fort possible. Mais est-ce que vous dites, dans la période là de Monégasque, qui est un peu compliquée, où on a compté avant l'émission,
on
sept défaites.
Oui, en championnat, 6 défaites sur les 7 dernières journées.
Ouais. 7 défaites sur 8, même, il me semble que tu as compté tout à l'heure.
Peut-être. J'en ai oublié le passage.
Et une défaite en Ligue des Champions hier face au Real, 6-1. Est-ce qu'on se dit que c'est le bon moment pour aller les prendre ou pas, les Monégasques?
Après, une équipe comme ça, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais en tout cas, si on peut les prendre quand c'est dans la pente descendante, on va le prendre. Mais maintenant, on sait que les équipes comme ça, avec toutes ces individualités, à tout moment, ils reprennent confiance. Donc j'espère qu'on va tout faire, en tout cas, pour que ça ne soit pas contre nous.
Un danger permanent avec ces joueurs-là, Félix, je vois hocher la tête.
Bah oui, c'est clair. Je pense qu'on doit rester humble, et puis on sait que l'AS Monaco avec leurs joueurs peuvent faire la différence à tout le monde. Donc je pense que ça, pour nous, ça change pas grand-chose. C'est juste on va se préparer comme si, comme on joue contre l'AS Monaco, et on verra bien ce que ça va donner.
Est-ce que la différence cette année, je me permets, est-ce que la différence cette année, c'est que ce hack, on a l'impression qu'il peut prendre des points quasiment à chaque journée, parce que même les défaites les plus significatives, alors on sait ce qui s'est passé à Marseille par exemple, mais avant cette histoire de main penalty, vous étiez pleinement dans le match. On a l'impression que vous êtes en capacité d'embêter toutes les équipes, et même Monaco avec ses grosses individualités, mais on se dit qu'il y a moyen, quoi. Je sais pas comment vous le ressentez, vous.
Moi personnellement, pour avoir un peu joué l'année dernière, je pense que défensivement on est plus solide, et c'est ça qui nous permet d'être plus relâché offensivement, et de plus tenter, de plus avoir confiance, de ne pas se dire que bon, si on loupe cette occasion là, il y aura un contre et ça va nous être fatal. Donc mentalement, je pense qu'on rentre dans les matchs avec plus de confiance, et je pense qu'on le voit aussi au niveau du jeu, au niveau de ce qu'on produit sur le terrain.
C'est peut-être anecdotique, une question, est-ce que ça fait plaisir de jouer un samedi soir, parce que c'est un peu le jour du foot, historiquement le samedi.
C'était le jour du foot, ils ont peut-être pas connu, ils sont peut-être trop jeunes.
Non, ouais, c'est toujours bien de jouer le soir, surtout à domicile, quand on sait que les supporters se déplacent. Donc on va essayer de les rendre heureux avant le dernier jour de week-end.
Ouais, je pense que c'est surtout bien pour les supporters, à mon avis. De pouvoir assister au match, parce que à domicile, je sais pas si ça les dérange tellement quand c'est 17h15, même si ça peut quand même faire rentrer un peu tard le dimanche, surtout si on a des enfants. Mais par exemple, je pensais, là j'étais à Rennes dimanche, quand je voyais ces 800 supporters, et je me disais match 17h15, donc ça fait 19h15, le temps qu'on vous libère, parce que quand on sait qu'on est dans les parkages, vous partez après tout le monde.
Il y a un peu de temps d'attente.
Rennes Le Havre, il y a quoi, 2h30 en voiture, je pense, si vous êtes venu en bus 3h, 3h. Bon, je me dis que pour un dimanche, et c'est que Rennes. Alors, j'imagine quand vous êtes à l'autre bout de la France, donc surtout pour les supporters, je pense que c'est très bien ces petits matchs le samedi.
Quand il touchait le ballon, j'avais l'impression que le temps s'arrêtait un petit peu, et que même quand il jouait en une touche, on gagnait du temps. En fait, il a cette faculté à voir avant de recevoir. J'ai aimé aussi l'état d'esprit où il a beaucoup communiqué. Il apporte son expérience aux autres. J'ai beaucoup aimé qu'ils prennent l'initiative de frapper. C'est quelque chose dont on a parlé cette semaine, où quand on a un pied comme le sien, on se doit d'avoir des statistiques plus poussées. Je pense que c'est vraiment vers cet état d'esprit qu'on veut tendre.
Vous aurez peut-être reconnu Didier Digard dans le débrief 100%, que c'était en conférence de presse dimanche, après la première apparition de Sofiane Boufal, l'un des gros coups du mercato hivernal à ce stade pour le HAC, et peut-être même pour la Ligue 1, hein, pourrait-on dire. On rappelle que le contexte financier du Havre est toujours compliqué, hein, encadrement de la masse salariale, petit budget. Mais alors, que peut bien dire Mathieu Bonnemer pour convaincre ses joueurs de venir? On peut peut-être poser la question à Félix, puisque vous êtes arrivé cet été en provenance de Suisse. C'est quoi les mots? Qu'est-ce qui vous a, vous, convaincu de venir ici au Havre?
Je dirais que c'est sa connaissance du football. Parce que quand il m'a parlé, il connaissait mes points forts, mes points faibles, où je pouvais m'améliorer, puis qu'est-ce que ça allait m'apporter de faire ce step au Havre. Et ouais, après on connaît le joueur que c'était. Personnellement, c'était pas si compliqué que ça de faire le choix.
Et vous reconnaissez dans son discours, donc là on parle de Mathieu, mais il y a aussi, j'imagine, peut-être le coach des fois qui intervient ou d'autres, d'autres personnes, mais vous vous retrouvez du coup dans son discours quand vous parlez, il connaît mes points forts, il connaît mes points faibles. Mm-hmm. Vous êtes en, en phase, entre guillemets, ouais, avec le discours qu'on vous tient. Mm-hmm.
Bah, parce que c'est, on voit que ça a été analysé. Et donc, il n'y a pas tout le monde qui le fait.
Qui fait comme ça, du ouais. coup. Vous n'avez pas que des contacts, vous n'avez pas eu que des contacts comme ça.
Non. Mais ouais, je dirais, c'est ça. Et que tout, que ce soit le coach et le directeur sportif, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Et ça, ça aide beaucoup.
Je me permets une petite aparté. Vous dites, on connaissait le joueur que c'était, Mathieu Bonnemer. Vous avez vraiment vu jouer Mathieu Bonnemer en tant que joueur?
Oui, oui.
C'est vrai?
Quand même, moi, ouais, j'ai 25 ans. Hein, je
suis. Faut pas, faut pas l'idéler. Faut...
Non, non, j'ai vu. Et puis, même de nom, enfin, moi, j'avais mon père qui suivait la Ligue 1. Et donc, ouais, je connaissais.
Avant de parler de ceux qui restent, parce qu'il y a ceux qui arrivent et ceux qui restent, peut-être un mot, un avis, messieurs Luc et Mathieu, sur Mercato hivernal et ses arrivées. On a parlé de Sofiane Boufal, mais ce n'est pas le seul.
Non, mais il y a eu le retour de Timothée Mbembele, que Rassoul forcément connaissait bien de la saison dernière, qui est revenu. Et puis donc le prêt de Lucas Gourna, qui devrait peut-être être dans le groupe ce week-end. Milieu défensif, voilà, qui est prêté par les Autrichiens de Salzbourg. Absolument. Non, c'est tout simplement, alors voilà, il y a aussi les premiers contrats professionnels, Enzo Kofi, Noah Mumugu, il y a aussi quelques départs forcément, parce que pour qu'il y ait des arrivées, il faut qu'il y ait des départs. Voilà, on y reviendra un peu plus tard. Il y a aussi quelques prolongations. Ouais. Moi, je trouve ça tout simplement, encore une fois, bluffant. Ça l'était déjà un petit peu, je trouve, la saison dernière. Ça avait largement contribué au maintien du club et à relancer une dynamique. Là, c'est un contexte différent parce que je trouve que Le Havre a fait une bonne première partie de saison. Donc, oui. Comme nos invités le disent, il y avait quand même pas mal de confiance. Mais voilà, ça témoigne quand même de la capacité de persuasion. Et je pense que Le Havre est en train d'acquérir aussi une petite notoriété. Je vois un garçon comme Sofiane Boufal, alors que je ne connais pas personnellement, mais j'imagine peut-être qu'il pense à la Coupe du Monde avec le Maroc l'été prochain, qu'il cherche du temps de jeu dans un championnat. Voilà, Félix le disait, voilà, la Ligue 1 a quand même visiblement aussi une bonne réputation. Donc tout ça, et puis quand vous voyez ce qu'a fait un garçon comme Junior Manga au Havre la saison dernière, bon là, il est à Nantes, je pense que c'est plus compliqué. Je pense que quand vous avez 2-3 propositions et que vous avez la stabilité et le discours du Havre, ça peut... Bah, les joueurs, je pense qu'ils peuvent être séduits par ça.
Oui, c'est ça. Je rejoins l'avis de Mathieu. Je trouve que j'ai presque envie de dire, il y a le savoir-faire maintenant du hack, de savoir relancer des joueurs qui sont parfois en manque de temps de jeu ou qui ont besoin de se relancer. Et là, typiquement, c'est encore le cas sur ce mercato-là avec les arrivées. Timothée Mbembele, il jouait pas du tout. Sofiane Boufal, c'est plus.
Joue un petit peu.
Il joue un peu plus quand même, oui, c'est ça. Mais effectivement, s'il a besoin de se mettre un peu en évidence, c'est peut-être pas plus mal d'être en Ligue 1 et d'être un peu plus visible. En tout cas, c'est clair que pour moi, ces trois joueurs-là qui sont déjà là, ce sont des super pioches qui vont faire du bien pour la deuxième partie de saison. J'attends de voir un peu s'il peut y avoir d'autres renforts. Mais
il est gourmand, lui. Il en veut plus.
Pas beaucoup plus, je pense. Non, mais je pense qu'il en faut pas beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est déjà, à mon sens, un mercato qui est sur le point d'être réussi.
Et trois joueurs francophones et qui ont déjà évolué en Ligue 1. Alors, Timothée Mbembele, forcément, lui, connaît le club, j'imagine, par cœur. Mais pour leur intégration, mine de rien, c'est une opération un peu sur 5 mois. Forcément, c'est plus simple qu'un joueur étranger qui ne parlerait ni la langue, qui ne connaîtrait pas le championnat. Ça demanderait forcément peut-être un peu plus de temps, même s'il y a des contre-exemples. Hein. Ahmed Hassan, l'année dernière, s'était, je pense, rapidement acclimaté avec vous et vous avez rendu de précieux services sur la deuxième partie de saison. Mais voilà, donc c'est plutôt intéressant tout ça.
Bon, il y a ceux qui donc arrivent, je le disais, ceux qui choisissent de rester, de prolonger. C'est votre cas, Rassoul, vous êtes engagé jusqu'en 2028 maintenant avec le GAC. Pourquoi ce choix, tout simplement?
Je pense que mon bon début de saison a lancé les négociations entre mon agent et le club. Et je pense que, je l'ai toujours dit, j'étais un peu redevable envers Mathieu Bonnemer et son staff. Parce qu'ils sont venus à Sochaux me récupérer, ils ont donné une somme qu'ils pouvaient ne pas donner s'ils avaient attendu que mon ancien club coule. Mais voilà, je suis quelqu'un de reconnaissant et j'avais dit à Mathieu que j'allais prolonger s'il fallait le faire. Donc voilà, ça s'est fait tout naturellement.
Parce qu'on précise quand même, alors vous m'interrompez si je me trompe, hein, mais vous étiez en fin de contrat au mois de juin. Donc, dans les règlements du foot, libre de vous engager à partir du 1er janvier pour le club de votre choix dans l'optique de la saison prochaine. Et donc, ça, ce que vous venez de faire, là, de prolonger, c'est assez rare dans le foot moderne. C'est pour ça qu'on en parle autant, d'ailleurs. C'est une démarche assez, assez rare. Je vois que vous esquissez un sourire, vous en êtes bien, bien conscient aussi vous-même que c'est pas commun ce que vous venez de faire.
Ouais, après, c'est des choses qui sont assez relatives par rapport à la situation du joueur. Et comme je l'ai dit, c'était plus humainement parlant. J'avais donné ma parole à Mathieu, donc je devais suivre ce que je lui avais dit. Et je pense qu'après, il y a des choses dans le contrat qui font que, voilà.
Bien sûr, après, il y a des discussions entre le club et vous et vos représentants.
Exactement, c'est bénéfique pour... de mon côté et du côté du club, et on connaît la situation financière du club, donc voilà quoi.
Et est-ce qu'au-delà de la situation financière du club, on avait eu Mathieu pour la dernière émission de l'année 2025 qui disait quand même que le foot pro avait aussi un petit peu changé, qu'il y avait un petit peu d'incertitude. Je crois que Félix, vous avez signé libre aussi, que disait que c'est vrai qu'avant, être libre, c'était pour les joueurs normalement une très belle opportunité de trouver une destination, et qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte, c'est le contexte français, c'est pas partout pareil, mais être libre, on pouvait aussi s'interroger sur est-ce qu'on va trouver un club. On l'a vu, par exemple, on a vu que Mathieu Gorgelin vient tout juste de re-signer à Lens après 6 mois. Est-ce que ça, dans votre réflexion, par exemple, vous êtes très vite engagé, je crois, Félix, donc vous avez été, entre guillemets, soulagé de ce qu'il y a à voir. Mais est-ce qu'on y pense? Vous êtes des jeunes joueurs, mine de rien, vous avez encore une grande partie de votre carrière derrière vous, mais est-ce que vous vous dites, il faudrait pas que je connaisse une période de chômage, d'inactivité? Je sais pas si c'est une réflexion que vous avez.
Moi, personnellement, je pense que, dans le monde du football, il y a ces top, top, top joueurs qui, eux, ils ont pas forcément de problème. Ils savent que...
Ça va venir.
Ça va venir. Et après, je pense que, moi, personnellement, je préfère... surtout jouer la sécurité, si je sens le truc, d'y aller, et pas forcément attendre la meilleure offre financièrement. Je pense pas que je suis dans une phase de ma carrière où je dois me focaliser sur ça. Et ouais, moi je pense plutôt que ça peut être un risque, parce que être au chômage, ne pas s'entraîner avec l'équipe pendant des mois, je pense pas que c'est la meilleure chose.
Alors Soul, est-ce que vous avez un avis sur cette question-là?
Ouais, je suis d'accord avec Félix, parce que le foot, ça va très vite et... on peut être au top et s'attendre à certaines propositions, mais comme vous l'avez dit, il y a des propositions des fois qui viennent pas. On ne sait pas pourquoi. Ça peut être financier, ça peut être plein d'autres choses. Et on peut voir notamment le 11 des joueurs en fin de contrat en janvier. Il y a beaucoup de joueurs meilleurs que nous qui étaient en fin de contrat. Donc voilà, on ne sait jamais de quoi est fait le futur. Donc jouer la sécurité, c'est... je pense, la meilleure des choses.
On rappelle que le mercato se referme le 2 février, hein, lundi à 20h. une petite question, est-ce que vous, on disait Luc est gourmand. Est-ce qu'il y a un poste?
Luc, il veut un petit dessert. Il veut une petite gourmandise pour terminer son mois de janvier.
Gourmand, oui, mais pas trop non plus.
Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter
Moi, je serais surtout... désireux de voir des prolongations de contrat plus que des recrutements maintenant, parce que on a quelques joueurs qui sont quand même en fin de contrat et qui peuvent rejoindre à tout moment maintenant des clubs. Donc je pense notamment à, par exemple, le premier joueur qui me vient là, c'est Gauthier Loris, qui pour moi est peut-être la priorité des dirigeants pour essayer de le faire prolonger. Donc moi, je serais plutôt d'avis d'essayer maintenant de prolonger certains cadres de l'équipe qui peuvent clairement quitter le bateau s'ils ont des propositions de club. Pourquoi pas intéressante. Après, s'il faut vraiment recruter un joueur, moi je dirais plutôt un profil d'avant-centre qui doit peut-être encore manquer. Alors, reste l'incertitude avec Kenny Kaitan, dont on attend éventuellement la signature de son premier contrat professionnel. Mais voilà, peut-être qu'un attaquant avec un petit peu d'expérience, ça ferait peut-être pas de mal.
Kenny Kaitan, c'est pas mal. En tout cas, ça, si on n'a pas tous les tenants, les aboutissants des discussions, ça ne l'empêche pas de jouer. Vu qu'il était de nouveau titulaire avec vous à Rennes. Ça fait donc du coup 2 titularisations de rang avec Angers, où il avait marqué, comme son compère d'ailleurs Noah Mobougou. Donc c'est vrai que en plus, par rapport à l'image du club, club formateur, il faut aussi protéger ses actifs joueurs. Donc c'est vrai que si dans les prochaines semaines le club annonçait une signature d'un contrat pro pour Kenny Kaitan, ça serait effectivement une très bonne nouvelle pour tous les amoureux de ce club là.
En direct de Dakar. On est là. Comme jamais. Comme jamais. Toujours.
Voilà la joie de Moridio et de son pote Edouard Mendy, les plus à vrai des Sénégalais. Heureux, hier, c'était dans le bus à Imperial des Lions de la Teranga, en défilé dans les rues de Dakar, extrait d'une story Instagram, hein, j'avoue, j'ai piqué ça sur le compte de Moridio. Le Sénégal qui a donc remporté la Coupe d'Afrique des Nations dimanche au terme d'une finale pour le moins rocambolesque. Finale que vous avez suivie, je crois, les uns les autres dans le bus, hein, puisque j'ai vu passer là aussi sur Insta une petite story avec un Yacine Keshta particulièrement déconfit.
Ah, il peut pas avoir que des euros dans une finale.
Ah ouais.
Non, vous étiez sur c'est sur le compte de Issa Soumaré que j'ai vu ça. Oui. Voilà. Bon, ouais, c'était ça. C'est dans le bus. Hein, vous étiez tous ensemble pour vivre ça. Comment vous avez vécu cette finale avec un scénario? Alors on va le rappeler, hein, le péno sifflé en 96e. Fin de match, les Sénégalais qui quittent la pelouse, le rappel de Sadio Mané, la serviette d'Edouard Mendy, la panenka de Brahim Diaz et
le but refusé,
la panenka ratée, hein, but refusé.
Le but refusé puis, en début des arrêts de jeu aussi.
Et le but finalement de Pap Gueye qui a été formé au HAC. Moi, bon, je me tourne vers vous, Rassoul, en tant que Sénégalais. Ça fait quoi voilà, vous avez fait comment cette finale?
Déjà, il y avait de l'attente parce que c'était quand même la troisième finale sur les quatre dernières participations. Donc après, au niveau du match, c'était un beau match avec, je pense, les deux meilleures équipes d'Afrique en ce moment. Et voilà, ça a bien tourné pour nous les Sénégalais. Après, voilà, il faut quand même féliciter le Maroc pour non seulement pour leur équipe, mais aussi pour, je pense, la compétition. C'est un beau pays et ça, ils ont bien représenté jusqu'à la fin de la fin du match. Mais voilà, c'est des choses bon, qui arrivent, comme on l'a vu. Mais j'espère que les gens ne vont pas retenir que ça, en tout cas.
Ça n'a pas trop chambré dans le bus? Parce que du coup, il y a forte délégation Sénégal et forte délégation Maroc,
chambré,
quoi, quand même.
Ça a chambré,
hein.
Ça a chambré. Mais je pense que si ça avait tourné de leur côté,
ça aurait plus chambré encore.
Encore plus, ouais, je pense. Donc, franchement, nous, les Sénégalais, ça va. On est sobre sur le chambrage.
Beau joueur, quoi.
Non, je demandais parce que qu'on avait eu Rassoul la dernière fois. On parlait de ces sélections, hein, justement. Vous avez manqué de peu la CAN, hein. Je crois que vous étiez dans la liste élargie, hein, si je me trompe pas. Vous avez touché du doigt un petit peu là, voilà. Est-ce que vous avez été, j'ai envie de dire, déçu? Bon, j'ai l'impression que vos performances en club, en tout cas, montrent que vous avez, si vous l'avez été, vous avez tourné la page. Mais comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous vous dites c'est une bonne nouvelle que je sois si près du but, ou est-ce que au contraire ça veut dire bah tiens, ça m'embête un petit peu d'avoir échoué sur le fil, quoi?
Ouais, après honnêtement, vraiment c'est. Plus la compétition elle passait et que le Sénégal allait loin, plus on se dit qu'on était proche de. Et puis à la finale, quand ils ont gagné, on se dit que ouais, on était à deux doigts vraiment d'être champion d'Afrique. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous pousse et je pense que c'est quelque chose qui va me motiver par la suite de ma carrière à vouloir toujours faire plus pour être quelqu'un d'indiscutable dans la sélection. Mais voilà, comme vous l'avez dit, il y a des bonnes choses. Je suis resté en club, j'ai fait mes matchs, mes passes décisives. Donc voilà, c'est...
Votre but? Bon, partagé.
Mon but partagé. Donc voilà, en tout cas, je félicite l'équipe et j'espère qu'ils ont bien profité. Et, de toute façon, la coupe, elle est à tous les Sénégalais.
Ouais, et Maury va vous raconter ça, du coup.
Il va bien me raconter ça.
Quand il va rentrer. Sachant que, quand même, il y a aussi un objectif important pour vous au niveau international. La Coupe du Monde, au mois de juin. Et avec un petit match pour commencer. Pas du tout, en plus, pas du tout symbolique. Hein.
Non, vraiment.
Un petit France-Sénégal à New York.
Ouais. Accessoirement.
La CAN, c'était un objectif. Après, je l'ai loupé, mais voilà, comme j'ai dit, il n'y a vraiment pas de déception ou quoi. Mais la Coupe du Monde, vraiment, c'est un deuxième objectif et je vais tout faire pour y aller. Surtout qu'il y a France-Sénégal, donc
ça peut être pas mal. De nouveau. Ouais, vous avez en 2002
j'avais 6 mois.
Ah oui,
6 mois.
Ah, donc le but de Papa Pouba Diop, c'est en replay sur YouTube, quoi.
Ouais, en YouTube.
Ça fait partie des légendes.
Ah oui, je pense que ça fait partie des légendes du football sénégalais, en tout cas, ça.
On connaît.
Battre les champions du monde en titre en match d'ouverture de la, de la Coupe du Monde, ça arrive pas tous les, ça arrive pas tous les jours.
Une Coupe de 2002 qu'on, ouais, qu'on aimerait oublier.
Pour ceux qui ont 25 ans et moins.
Côté tricolore. Puisqu'on parle de la carrière internationale, Félix, vous avez été appelé dans les catégories jeunes, hein, avec la Suisse, jusqu'en espoir. Est-ce que c'est aussi un objectif de... d'être avec les A un jour.
Je pense pas que c'est dans mes objectifs les plus proches. Mais je pense que je me concentre beaucoup sur le présent. J'essaie de pas trop me projeter. Ce qui doit arriver arrivera.
Est-ce que vous avez fait un... Parce que j'ai cru comprendre que vous avez des origines congolaises, si je me trompe pas. Vous pourriez peut-être être un coéquipier en sélection de Lionel Mpassi. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans un coin de votre tête ou pas du tout
C'est clair que il y a des réflexions à se faire, dans le sens où j'ai la possibilité de jouer pour deux, pour deux pays.
Vous n'avez pas encore été convoqué dans une équipe A d'un pays ou d'un autre.
Vous avez encore le choix, quoi.
J'ai encore le choix, mais comme j'ai dit, j'essaie de pas trop me projeter trop loin. Ouais. De me concentrer sur le hack et sur ma progression.
Ouais, donc on verra à la prochaine CAD éventuellement si vous croisez Rasoul sur un Sénégal Congo, quoi.
Bien souvent, en plus.
Ou la Coupe du Monde.
Ou la Coupe du Monde. C'est excellent, Romain. Il pense pas trop, mais il pense un peu quand même. On rappelle que le Congo fait les barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde au mois de mars. On l'avait évoqué avec Lionel Mpassi. Ouais. On va pas porter la poisse, mais des bonnes chances de qualification, parce que dans le match, le Congo est considéré comme favori. Ce petit tournoi un petit peu qui réunit des sélections de plusieurs continents.
Mais on aura la réponse au printemps. On termine avec...
On va aller faire une émission à New York comme ça, au mois de juin, ça va être bien.
Maintenant que
avec
je
tous
maîtrise...
les Havrais qui vont être sélectionnés, ça va être nickel.
Maintenant que je maîtrise de matériel de délocalisation...
Maintenant qu'on peut faire des délocs, on va pas se priver.
Luc, un petit mot, c'est ça?
Juste un petit clin d'œil, parce que voilà, c'est quand même le buteur de cette finale de la Coupe de la CAN, c'est quand même Pape Gay, un ancien du HAC formé à la KV Verte, qui, je pense, doit faire la fierté de certains formateurs au centre de formation. J'ai notamment, moi, croisé, il y a encore deux jours, Mickaël Bunel qui m'en parlait et qui me disait tout le plus grand bien de ce joueur qu'il a vu grandir et qui est notamment plusieurs fois repassé voir les jeunes au centre de formation il y a encore quelques mois. Donc voilà, petit clin d'œil, mais voilà, quand même un ancien vrai buteur dans cette grande finale, bien qu'un peu chaotique quand même.
Effectivement. On va faire un tour d'horizon des autres résultats, des autres formations hein, du HAC, comme d'habitude, pour terminer. Les féminines d'abord, alors que Mathieu Millot Espèce essaye de boire discrètement, mais c'est raté. Les féminines avec la capitaine Romane Anger qui jouait son 100e match en Ciel et Marine samedi dernier. Défaite sévère face au PSG 4-0. Au classement, les Havraises sont 8e d'Arkema Première Ligue avec 4 points d'avance sur la zone rouge. Dimanche, elles disputeront les 8e de finale de la Coupe de France. Ce sera face à l'OGC Nice chez les jeunes. Un week-end de reprise sans victoire. À commencer du côté de la Régionale 1 par match nul. 2-2 face à Ifto, match sponsorisé par le Courrier Cauchois, je crois.
Exactement.
Et ça n'a pas réussi au Havre. Ça a réussi au Cauchois.
Il y a des moyens pour les Cauchois, disons.
Hein. un peu. Simple, en tout cas, pour la réserve là, du HAC sur la pelouse d'Ifto. Ifto qui a rapidement en plus mené à la marque.
16e minute, je crois.
Ouais,
et
c'est
puis,
ça.
Qui a
réussi à revenir dans les 5-10 dernières minutes, je crois.
Toute fin de match. Donc
on peut aussi quand même dire aussi que tous les jeunes qui sont montés récemment avec les A, on peut aussi citer Paul Arnier, qui était gardien titulaire contre Angers et numéro 2 ce week-end. Je pense aussi, je ne sais pas si on l'a cité, mais le petit Enzo Coffi qui a fait très forte impression sur sa rentrée contre Angers. Je crois que Darren Mosengo est blessé actuellement.
Élisée Logbo qui est parti
en prêt à Bourg. Je veux dire, c'est autant de jeunes. Alors, c'est une super bonne nouvelle pour le HAC et pour l'équipe première, mais c'est autant de jeunes forcément qui ne sont plus en réserve. Et du coup, il y a d'autres jeunes qui vont devoir prendre la place. Et forcément, quand vous avez aussi un objectif de remonter, bon, faut rapidement prendre le pli du foot senior quand on a 17, 18 ans, quoi.
Un match nul aussi pour les U19. C'était face au Racing Club de France, 1-1. Le HAC est 8e. Les U17, auteur d'une prestation collective affligeante, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est leur coach, Alexandre Leron. Défaite 2-0 face à Bretigny. Les Havrais qui restent 6e. Et puis les U19 féminines, première journée de la phase excellence. Et une défaite 2-0 face au Stade Rennais pour les jeunes HAC Women qui avaient été réduites à 10 dès quasiment la 30e minute. minutes de jeu. Un grand merci Félix Mambimbi et Rasoul Ndiaye d'être venus nous voir au débrief 100% hack avant ce match donc samedi soir à 19h au stade Océane face à Monaco. J'en profite pour signaler que en raison des travaux du tram qui compliquent l'accès au stade, sachez que le service des navettes gratuites est renforcé, donc allez sur le site du hack pour voir ça. Il y a plus de départs à plus d'endroits que d'habitude. Le débrief 100% hack qu'on écoute sur tendanceouest.com, Deezer, Spotify, toujours sur footnormand.fr. Mathieu Billot, merci beaucoup.
Merci à tout le monde.
Et le courrier cauchois avec Luc Gallet, c'est le courrier cauchois.fr pour écouter. Fin de partie et à très bientôt pour un nouveau podcast.